VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Il est 17h à Lomé, 19h à Bujumbura. Nous commençons avec le Burundi. Une épidémie de choléra a fait 27 morts parmi les dizaines de milliers de Burundais qui ont fui les violences politiques dans leur pays pour se réfugier dans le nord-ouest de la Tanzanie, a annoncé aujourd'hui le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF ajoute avoir lancé une opération d'urgence pour tenter de circonscrire l'épidémie. Les troubles de ces derniers jours ont forcé plus de 110 000 personnes à fuir dans les pays voisins. La plupart sont des femmes et des enfants et une majorité d'entre eux sont arrivés en Tanzanie où une épidémie de choléra a pour l'instant fait 27 victimes, a indiqué l'UNICEF dans un communiqué cité par l'AFP. Selon l'UNICEF, plus de 70 000 Burundais se sont réfugiés en Tanzanie, plus de 25 000 au Rwanda et plus de 9 000 en République démocratique du Congo. Pour sa part, la Belgique annonce qu'elle arrêtera son aide directe au Burundi en cas de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a averti jeudi le gouvernement belge alors que les manifestations ont repris de plus belle à Bujumbura, malgré la riposte musclée des policiers. Un troisième mandat présidentiel entacherait au plus haut niveau la légitimité de l'exécutif burundais et placerait le gouvernement belge dans l'impossibilité de conclure un programme de coopération bilatérale classique, a indiqué dans un communiqué le ministère belge des Affaires étrangères. À l'issue d'un conseil des ministres, rapporte l'AFP. Toujours selon l'AFP, au Burundi même, un contestataire a été tué par la police aujourd'hui lors de nouvelles manifestations contre le troisième mandat pour le président Nkurunziza dans les quartiers contestataires de Bujumbura, la capitale. Jacques Aristide.
Dans le quartier de Muzaga, un des bastions de la contestation, la police a poursuivi ses opérations de restauration de l'ordre lancées la veille. Des tirs sporadiques ont été entendus toute la nuit et ont repris un rythme soutenu dans la matinée, alors que les manifestants tentaient de se regrouper dans les ruelles et lancer des projectiles. D'après l'AFP, les policiers ripostaient avec leur kalachnikov, tirant parfois à hauteur d'homme. Un manifestant a été mortellement touché au dos, selon des témoins. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées depuis le début fin avril à des manifestations contre une candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat à l'élection présidentielle du 26 juin. Ce mouvement, qui touche essentiellement la capitale Bujumbura, a été sévèrement réprimé par la police.
L'insurrection du groupe islamiste nigérian Boko Haram a causé une des pires crises humanitaires d'Afrique et des fonds supplémentaires sont nécessaires afin de porter secours aux victimes, a prévenu aujourd'hui le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Le président du CICR, Peter Moore, a fait ce constat après s'être rendu à Yola et Maiduguri, deux villes du nord-est du Nigeria où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge. Je suis revenu avec la forte impression que je n'ai vu que la partie émergée de l'iceberg, a déclaré le directeur, le président du CICR, lors d'une conférence de presse à Abuja, la capitale fédérale nigériane. Il a notamment insisté sur le besoin urgent d'aide aux victimes de violences sexuelles. De nombreuses femmes et jeunes filles ayant été enlevées, puis violées par le groupe islamiste. 11 personnes ont été tuées dans de nouvelles violences en Libye, ont rapporté jeudi des sources médicales et des services de sécurité dans ce pays qui s'enfonce dans la guerre civile. Selon l'AFP, qui cite ses sources, 10 soldats ont péri mercredi dans des accrochages à Benghazi, 1000 km à l'est de Tripoli, et 36 autres ont été blessés. Par ailleurs, un combattant de la coalition de milices de Fajr Libya a été tué jeudi près de Misrata, 200 km à l'est de Tripoli, dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le gouvernement du Malawi a été condamné à dédommager 11 prostituées qui avaient porté plainte pour avoir été forcées par la police de se mettre en test du sida, selon un jugement consulté par l'AFP ce jeudi. Elles avaient porté plainte pour traitement injuste et violation du droit à la vie privée. Le montant du dédommagement sera décidé dans une procédure séparée.
VOA Afrique en direct de Washington.
L'administration Obama a publié hier plusieurs documents trouvés lors du raid de 2011 au Pakistan, au cours duquel les forces américaines ont tué le leader d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden. Les détails avec Eddie Isango.
Parmi les documents déclassifiés, du courrier personnel adressé aux membres de la famille Ben Laden, une liste des livres en anglais retrouvés dans la parcelle, diverses études, des programmes d'ordinateur et autres manuels techniques et des documents d'autres groupes militants. Les cinq dernières années de sa vie, Ben Laden était hanté par une appréhension au sujet de la technologie avancée utilisée pour les traquer. Il avait donné à sa famille des instructions détaillées sur comment éviter de donner aux agents américains des pistes qui pouvaient conduire jusqu'à lui.
Merci Eddie. Le président Barack Obama estime que les États-Unis ne sont pas en train de perdre le combat engagé contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, rappelant avoir toujours indiqué que la campagne contre les djihadistes prendrait plusieurs années. « Non, je ne pense pas que nous perdons », souligne-t-il dans un entretien publié jeudi par The Atlantic. Il y a eu revers tactique, c'est incontestable, même si Ramadi était vulnérable depuis très longtemps, a-t-il ajouté, évoquant la chute de la capitale de la province d'Anbar aux mains des djihadistes sunnites ultra-radicaux. Pour sa part, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est émue jeudi du risque de nouveaux crimes de guerre du groupe djihadiste État islamique après sa prise de la cité antique de Palmyre en Syrie. À nouveau, des centaines de personnes ont été tuées et des milliers risquent d'être exposés à des violences arbitraires, tandis que de nouvelles destructions de sites culturels risquent d'être perpétrées, a relevé Mme Mogherini, citée par un communiqué à Bruxelles. Les tueries de masse et la destruction délibérée du patrimoine culturel et archéologique de Syrie et d'Irak par le groupe État islamique reviennent à des crimes de guerre au terme du statut de Rome, qui encadre la Cour pénale internationale, a rappelé la diplomate qui conclut une visite en Israël et dans les territoires palestiniens. L'État islamique contrôle désormais plus de la moitié du territoire syrien, des progrès qui suscitent des doutes sur l'efficacité de la stratégie américaine pour vaincre le groupe extrémiste. En Irak voisin, l'État islamique s'est emparé dimanche dernier de Ramadi, le chef-lieu de la province d'Anbar. Les troupes gouvernementales irakiennes et les milices chiites se concentrent actuellement aux environs de la ville. Washington se dit prêt à soutenir une contre-offensive de Bagdad pour reprendre Ramadi. La coalition arabe a maintenu la pression jeudi sur les rebelles chiites en bombardant leur position au Yémen, où des tribus pro-gouvernementales ont réalisé une percée dans le nord, selon des sources tribales et militaires que cite l'AFP. Des avions de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont bombardé à deux reprises un rassemblement de rebelles houthis sur une colline surplombant Taïz, après une attaque au mortier contre des quartiers de la ville, a indiqué un responsable provincial. L'état d'urgence a été décrété dans la zone touristique de Santa Barbara, en Californie, à la suite d'une fuite de pétrole brut au nord-ouest de Los Angeles. Il s'agit là d'une des pires marées noires qu'ait connue cet état de l'ouest américain depuis 1969.
Le gouverneur Jerry Brown a pris cette décision 24 heures après la découverte de cette fuite de pétrole dans une zone touristique à Refugio State Beach. L'état d'urgence permet à la Californie de débloquer ainsi les sommes prévues pour aider à nettoyer les zones polluées. La fuite aurait été causée par la rupture d'un oléoduc. La nappe polluante s'étend désormais sur 14 km le long de la côte pacifique. La compagnie responsable de l'oléoduc a présenté ses excuses pour les dégâts causés à l'environnement et assurer qu'elle poursuit les opérations de nettoyage 24 heures sur 24. Plusieurs groupes écologistes s'alarment des éventuelles conséquences. Selon les dernières estimations des autorités, mercredi après-midi, la fuite a été estimée à environ 400 000 litres, dont 80 000 litres d'énergie.
Merci Bogassi Koura. Prochain rendez-vous dans 20 minutes avec Chérubin Dorsil et Morgane Guériac.
Soyez au cœur de l'info.